Radio Okapi.
Plusieurs pays dans le monde élèvent la voix pour condamner le Rwanda sur l'agression de l'Est de la RDC. Mais ces pays s'arrêtent à condamner sans prendre des sanctions contre Kigali. Constat fait hier lors du briefing de presse co-animé à Kinshasa par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, le porte-parole de l'armée et le général Sylvain Ekenge et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Les FARDC et la police nationale congolaise ont globalement rempli leur mission dans la province de la Tchopo au cours de l'année 2024. Bilan dressé par le commandant de la 31e région militaire au cours de la parade mixte tenue ce vendredi au camp Sergent Kétélé à Kisangani. Le député national Émile Saïdi Bali Kwisha est l'invité de ce journal. L'élu du territoire de Bénior Kivu va parler de la situation sécuritaire de ces territoires où les rebelles des ADF tentent de regagner leurs anciens bastions vers la partie est de la route nationale numéro 4. Bonjour à tous, au micro Noëlla Luzitu Kabambi. Plusieurs pays dans le monde ont élevé la voix pour condamner le Rwanda sur l'agression de l'Est de la RDC. Même la Grande-Bretagne, l'allié inconditionnel du Rwanda, a cette fois-ci élevé la voix pour condamner la prise de Masisi par le M23 avec son allié, le Rwanda. Ce constat a été fait hier lors du briefing de presse co-animé à Kinshasa par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Mais pourquoi toutes ces condamnations ne sont pas accompagnées des sanctions contre Kigali? Thérèse Kayikwamba, chef de la diplomatie congolaise, affirme que la RDC prend à témoin tous ces États membres des Nations Unies qui manquent à leur devoir par leur silence accablant qui a permis au Rwanda de tuer, piller et violer en RDC pendant des décennies. Les propos de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, sont recueillis ici par Blaise Shindani Kambala.
Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi que eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus qui, selon nous, doivent être sanctionnés et le régime des sanctions des Nations Unies le permet. Mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du conseil de sécurité. Donc, certes, c'est frustrant, je le reconnais tout à fait, mais encore une fois, nous prenons tous ces pays qui se disent nos partenaires, nos alliés, tous ces pays qui nous donnent des leçons sur les droits de l'homme, nous les tenons aussi responsables pour leur silence accablant, qui pendant des décennies a permis au Rwanda de tuer, de violer et de piller en République démocratique du Congo. Et l'histoire ne sera pas généreuse par rapport à leur silence.
La France condamne les récents affrontements dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC, et se dit très préoccupée par la prise de Masisi, qui constitue une rupture du cessez-le-feu conclu le 31 juillet 2024 dans le cadre du processus de Luanda. La déclaration de la France a été publiée hier jeudi par son ambassade en RDC, grâce à Mzati.
À en croire cette déclaration, ces événements compromettent les efforts de paix essentiels conduits par l'Angola dans le cadre du processus de Luanda, auquel la France réitère son soutien afin de trouver une solution durable au conflit. Elle encourage les partis à mettre en œuvre sans tarder les engagements pris dans ce cadre et appelle au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. La France réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC, peut-on lire dans cette déclaration. Alors que la crise actuelle entraîne des graves conséquences humanitaires, la France appelle l'ensemble des groupes armés dont le M23 à déposer les armes et à reprendre le dialogue pour mettre un terme aux violences et protéger les populations civiles.
Sur le terrain au Nord Kivu, des violents combats opposent l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, au M23 appuyé par le Rwanda, se poursuivent ce vendredi dans les environs de l'axe Chacha-Bweremana. C'est notamment sur quatre collines surplombant cette partie du groupement Mufunishanga dans le territoire de Masisi. Bernard Danyangi.
Des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus depuis 6 heures locales du matin ce vendredi sur les collines Ndumba, Kashingamutu, Nyenyeri et Munanira, indiquent les sources civiles dans cette partie du territoire de Masisi. Elles précisent que ces combats sont ce vendredi à leur 3e jour dans cette zone inhabitée. Certains de nos sources parlent d'une avancée des FARDC et Wazalendo qui s'approcherait présentement de la localité de Kiluku, dans les proximités du village Chacha, repoussant les attaques du 1-23. Par ailleurs, après la réoccupation de Masisi Centre par les rebelles du 1-23 hier jeudi, un calme précaire règne ce vendredi dans cette cité, chef-lieu du territoire. En revanche, d'autres combats sont signalés dans le village de Mufunzi, près du centre de Ngungu, où l'armée congolaise et les Wazalendo poursuivent depuis quelques jours une offensive contre la coalition 1-23 AFC, soutenue par le Rwanda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la situation sécuritaire et humanitaire reste très volatile dans les territoires de Masisi, où les combats opposant les rebelles du 1-23 appuyés par le Rwanda au FRDC et combattants Wazalendo se sont poursuivis hier jeudi au chef-lieu. D'après Médecins sans frontières, MSF, plus de 10 000 personnes ont à nouveau trouvé refuge en urgence à l'hôpital général de Masisi, à la base de MSF aussi. Cette organisation internationale dit craindre l'émergence des maladies vu l'afflux des déplacés. Denise Loukesso.
Nous commençons à avoir des craintes car les installations sanitaires ne suffisent pas à répondre à leurs besoins essentiels. Les latrines commencent à déborder et nous faisons le maximum pour répondre à cette situation. Mais le manque criant d'acteurs humanitaires dans cette zone rend les choses difficiles, explique Romain Bruyey, coordinateur du projet MSF à Masisi. Outre la prise en charge des 77 blessés des récents combats au niveau de l'hôpital général de Masisi, MSF tente de soutenir aussi les familles réfugiées à l'hôpital en assurant l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Mais les besoins en alimentation vont rapidement se poser si la situation perdure, alerte MSF. Face à la situation volatile et à l'ampleur des combats, MSF appelle l'ensemble des parties au conflit à continuer à garantir la sécurité des patients, de ses équipes et des personnes réfugiés dans les structures sanitaires et locaux humanitaires. MSF déclare que la situation sécuritaire dans la zone de Masisi affecte aussi ses capacités à envoyer des équipes ailleurs dans les territoires. Difficile aussi, poursuit l'organisation, de référer des patients en état critique vers Goma. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
En Ituri, plusieurs centaines d'enfants déplacés en âge scolaire en errance dans la ville de Bunia prennent de la drogue au quotidien. Ils utilisent de l'essence ou de la colle Patex dont ils aspirent l'odeur. La plupart d'entre eux affirment que cela leur permet de vaincre la faim, la peur et le froid. Le Parlement d'enfants de l'Ituri affirme que c'est toute une génération d'enfants qui est détruite. Cette structure d'encadrement d'enfants appelle le gouvernement à sauver l'avenir de ses enfants. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Chula. Ils sont partout dans la ville. Ils marchent souvent en groupe de 3 ou plus. Ils demandent de l'argent et de la nourriture à tous les passants, généralement devant des magasins, supermarchés, les banques, etc.
Lorsque je suis dans un état d'ivresse, je ne ressens plus du froid la nuit. Mes parents ne sont pas au courant. Je fume seulement en ville. Et lorsque je rentre dans les sites auprès de mes parents, je cache le reste que je vais reprendre le lendemain matin.
Il existe dans le groupe un autre enfant de 10 ans, mais qui ne se drogue pas encore.
Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à traîner avec eux, mais moi, je ne me drogue pas. Je sais que cela détruit la santé et je les interdis chaque fois de fumer.
Céline Lucinde, chef de bureau de la protection de l'enfant au sein de la division provinciale des affaires sociales en Ituri, affirme que le gouvernement et ses partenaires ont pris plusieurs initiatives en vue de répondre à ces problèmes. Mais cela nécessite l'appui des parents dans les sites.
Ce qu'on a constaté, on peut réinsérer les enfants à l'école, mais les parents ont tendance à montrer aux enfants que mieux vaut venir dans la rue que d'aller à l'école.
Si rien n'est fait pour arrêter ces phénomènes, même après la guerre en Ituri, cette génération d'enfants ne pourra plus être sauvée, estime un observateur. Bunia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Les FARDC et la police nationale congolaise ont globalement rempli leur mission dans la province de la Tchopo au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever. Cependant, le chemin reste encore long à parcourir. Ce sont là les propos du commandant de la 31e région militaire lors de la parade mixte ce vendredi au camp Sergent Kétélé à Kisangani. Tout en appelant ses hommes à observer un comportement digne au cours de l'année 2025, le général-major Timothée Mujingamije provient. Tout récalcitrant sera sévèrement sanctionné. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Pour le commandant de la 31e région militaire, les FRDC et la police ont globalement rempli leurs missions respectives conformément à la constitution de la République. Celle est de protéger l'intégrité territoriale ainsi que la protection de la population et ses biens. Cependant, il déplore certains cas de vols à main armée avec mort d'homme ainsi que de tracasseries policières et militaires. Cette situation doit cesser puisque l'armée est un métier d'honneur, a-t-il martelé. En outre, souligne-t-il, les équipements militaires ainsi que leurs soldes proviennent des contributions financières des populations. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, il annonce pour bientôt le contrôle et l'identification des personnes habitant dans les camps militaires. Objectif déclaré, chasser les inciviques qui s'y sont réfugiés, occasionnant ainsi l'insécurité dans la ville. Par ailleurs, le commandant de la 31e région militaire demande à ses hommes de se tenir de près afin de répondre à l'appel de la nation à tout moment en cas de besoin. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui, a-t-il indiqué. Allusion faite à la partie est du pays en proie à l'agression rwandaise. En considération de leur devise, à savoir ne jamais trahir les Congos et ou défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême, le général Timothée Mujinga met en garde tout militaire qui violerait ce serment. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans le centre du pays, le gouverneur du Kasaï central est rentré ce vendredi à Kananga après avoir été à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur. Sa sortie médiatique lors du passage du chef de l'État dans la province sur l'inaction du gouvernement central avait fait l'objet des critiques. Dans son adresse devant la population venue l'accueillir ce vendredi, Joseph Moïse Kambulu a indiqué qu'il a été invité à Kinshasa par la hiérarchie et il n'y a aucun mal à cela. Appel à la transparence et à la répression de tous les auteurs impliqués dans l'exploitation illicite des minerais en République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé hier par le comité de coordination des plaidoyers de la société civile œuvrant dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles en RDC. À travers un communiqué de presse, 22 organisations de cette coordination dénoncent ce qu'elles appellent l'ampleur de l'exploitation qualifiée d'illicite des ressources minérales dans le pays, avec une présence massive et non autorisée des ressortissants étrangers dans les sites miniers. C'est le cas notamment de l'exploitation aurifère dans la partie est du pays. Elles en formulent quelques recommandations pour ainsi y mettre fin. On écoute ici une de ces organisations, Southern African Resource Watch, de Joseph Chihunda, au micro de Jeff Ngoy.
Les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs de la gouvernance des ressources naturelles sont préoccupées par la gestion de l'affaire de l'exploitation illicite de l'or dans les villages de Karembo, territoire de Walungu, dans la province du Sud-Kivu, par les sujets chinois depuis 4 années. Elles ont appris avec consternation la libération et l'autorisation de quitter les territoires congolais des 17 Chinois impliqués dans cette exploitation illicite et présumés auteurs des tentatives de corruption dans l'impunité totale. Elle recommande au gouvernement national de diligenter en toute urgence une enquête transparente sur cette affaire pour permettre à l'État congolais de récupérer les revenus perdus de cette exploitation illégale. Au gouvernement provincial de continuer sans désemparer à mettre de l'ordre dans les secteurs miniers en expulsant tous les opérateurs illégaux et dénoncer leurs complices.
Les prix de certaines denrées alimentaires ont monté sur le marché de la ville de Beni au Nord Kivu depuis environ une semaine. Il s'agit notamment de la pomme de terre et du poisson, de l'oignon, du poisson chinchard et de certains types de légumes. Un carton de poisson chinchard qui coûtait 75 000 francs congolais revient actuellement à 90 000, voire 100 000 francs congolais. Certains vendeurs expliquent cette hausse par la saison sèche ainsi que l'insécurité dans la région d'approvisionnement au sud du territoire de Lubero. C'est un reportage de Guylaine Kassassia.
C'est depuis les festivités de fin d'année que le prix des différentes variétés de la pomme de terre ont pris l'ascenseur sur le marché. C'est par exemple la variété Carolis qui s'est vendée à 2000 francs congolais les kilos avant Noël et qui revient actuellement à 2500 francs, explique Thérèse Kombi, vendeuse au petit marché de Mayankosi.
La pomme de terre a diminué au lieu d'approvisionnement parce que tout a été consommé presque pendant le fête. Mais aussi la guerre d'Alimbongo en est une autre cause parce qu'il nous fournissait en grande quantité.
Cette hausse est aussi observée sur le marché des oignons. Du côté du poisson chinchard, communément appelé Thompson, les étalages sont vides à cause de la rareté sur le marché depuis une semaine. Graciana Siaira, vendeuse, dit ne pas connaître la cause de cette rareté.
Auparavant, on achetait un carton 15 kilos de Thompson à 75 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est 90 000 et même 100 000 francs.
Cette autre femme que nous rencontrons devant un carton de poisson presque vide dit ne pas savoir à quel sens se vouer. La principale cause de cette flambée de prix demeure l'insécurité dans les Mayankosi et le sud du territoire de Lubero, d'où proviennent majoritairement les denrées alimentaires consommées dans la ville de Beni. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Guinée, la junte au pouvoir depuis 2021 somme les mouvements politiques sans autorisation administrative préalable de cesser leurs activités après avoir indiqué vouloir organiser des élections cette année. Dans un communiqué lu à la télévision nationale dans la soirée hier par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il est demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités, de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès de son ministère pour leur existence légale. Ces propos interviennent dans un climat tendu trois jours après une manifestation de l'opposition qui réclame le départ de la junte et dénonce un exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir. La junte s'était initialement engagée sous la pression internationale à céder le pouvoir à des civils élus avant la fin de l'année 2024, promesse qu'elle n'a pas tenue. Le général Mamadi Ndoumbouya, à la tête de la junte, a promis dans ses vœux du nouvel an 2025 que cette année serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel.
L'invité.
La situation sécuritaire dans le territoire de Beni au Nord Kivu inquiète le député national Émile Saïdi Balikwisha. En vacances parlementaires dans sa circonscription électorale, cet élu du territoire de Beni rapporte que les rebelles des ADF tentent de regagner leurs anciens bastions vers la partie est de la route nationale numéro 4. Il parle d'un vide sécuritaire dans la région qui nécessite une intervention urgente du gouvernement. Le député Émile Saïdi Balikwisha est l'invité de ce journal. Il s'entretient au téléphone avec Marco Marofimbo. Suivez.
Émile Saïdi Balikwisha, bonjour.
Ah oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'effectuer une ronde dans le territoire de Beni. Quel constat faites-vous de la situation économique et sécuritaire de la région?
Nous sommes en vacances parlementaires depuis décembre 2024. Nous avons eu à travailler à Eringeti, dans le secteur Benimbao, à Oicha. Et récemment, là, nous étions à secteur de Rwenzori. Pour le moment, nous nous retrouvons à Chefferie de Bachu, où nous essayons de trouver de l'occasion pour alerter les gouvernements sur ce que nous venons de constater du côté de l'Est de la RN4. Bien sûr, nous saluons la bravoure des FARDC coalisés aux UPDF qui ont eu à travailler dans la vallée de Mualika, et ça fait plus d'une année, la vallée de Mualika est calme. La même chose a été faite à secteur de Rwenzori, où les anciennes bases des EDF ont été conquises par les forces loyalistes. À Chefferie de Batalinga, la même chose s'y est passée. Vers route Mbau Kamango, il y aurait un mouvement des EDF qui serait en train de se réorganiser. Et bien sûr, il n'y a même pas deux semaines, l'ennemi a signé une incursion là-bas. Il n'y a même pas une semaine, nous avons été signalés que vers Kididiwe, l'ennemi a tué de gens et emporter d'autres dans la forêt. Pas plus tard qu'avant-hier, l'ennemi a signé une incursion à l'Ocelos et dans le secteur de Rwenzori. Il a tué de gens, il a emporté d'autres disparus et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le sort. Et nous avons été alertés par la population de secteur de Rwenzori qu'il y aurait un mouvement des EDF qui se dirigerait vers la rivière Semuriki
Et là, il y a un risque pour ceux qui sont dans la vallée de Mwarika de connaître ce qu'ils ont eu à connaître il y a plus d'une année. Nous pensons que la guerre qui se tient en territoire de Lubero, Masisi, Nyiragongo, contre les M23, nous a pris beaucoup d'effectifs pour essayer de tenter de faire face à cet ennemi rwandais qui fait tout pour occuper le territoire congolais, mais qui ne sera pas possible grâce à la résistance de l'armée loyaliste accompagnée des patriotes résistants. Alors, revenons sur ce qui est de cette alerte. Nous pensons que c'est plus urgent, ou alors c'est très important, de prendre une mesure pouvant garantir à la population la sécurité. Et cette mesure consistera à équiper toutes ces anciennes bastions des effectifs militaires pouvant monter une résistance contre les ennemis de la paix ou alors les EDF qui tenteraient de réoccuper ces zones. Parce que réoccuper ces zones égale partager la mort à des paisibles populations qui y sont déjà pour l'agriculture.
Dans votre correspondance du 7 janvier 2025 au ministre de la Défense, vous avez insisté sur une intervention urgente des opérations militaires dans la région de Beni qui subit à nouveau les menaces des ADF. Que vous a répondu le ministre de la Défense?
Du ministre de la Défense, nous n'attendons pas une réaction couchée sur le papier, mais nous attendons des actions. Nous avons besoin des effectifs sur la ligne de front. Un commandant secteur qui est là, bien sûr, il est déterminé, mais un commandant secteur sans effectifs militaires, un commandant secteur placé dans de très mauvaises conditions qui ne lui permettent pas de faire la guerre contre l'ennemi, de prévenir les risques des attaques contre les civils.
Voilà une décennie que les rebelles des ADF attaquent régulièrement les localités du territoire de Beni. L'État n'a jamais baissé les bras, les populations non plus. Comment expliquez-vous la persistance du phénomène ADF dans cette partie du territoire? Et c'est quoi votre solution pour finir avec ce phénomène? L'option militaire, on le voit depuis plus de 10 ans, ne suffit toujours pas. Qu'en dites-vous?
En tout cas, nous pensons que il vaut mieux renforcer les effectifs pour permettre au commandant secteur de faire bien son travail et des effectifs qui seront dotés en matériel nécessaire pour faire la guerre contre l'ennemi ou alors pour monter la sécurité des personnes et de leurs biens. Vraiment, si rien n'est fait dans l'urgence, nous risquons de retourner à la case départ. Donc, nous risquons de connaître des massacres comme ceux que nous avons eu à connaître l'année 2023 en chefferie de Bachou dans la vallée de Mwarika et partout là, secteur de Rwenzori et Benimbao.
Saïdi Balikwisha, Emile, merci.
Ah, c'est à moi de vous dire merci, messieurs les journalistes.
Merci à vous aussi d'avoir suivi ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Dieudonné Nyangasa, un journal coordonné par Jacques-Yves Molima. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.